Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Elsa Vidal, qui dirige la rédaction russe de RFI et qui vient de publier ce livre, La fascination russe, qui fait beaucoup parler de lui, Politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie. Bonjour Elsa.
Bonjour Pascal.
Alors, 30 ans de complaisance, est-ce que vraiment les différents présidents de 30 ans, donc vient de la fin de Mitterrand à Macron, est-ce que tous les présidents auront été subjugués et auront eu un tropisme pro-russe ?
Alors non, tous les présidents n'ont en effet pas été tous aussi subjugués les uns que les autres. Et il y a parmi les présidents de la Ve République beaucoup qui ont été de bonne foi et qui ont fait des calculs stratégiques en direction, quand ils pensaient à la Russie. Mais il y a notamment parmi eux Jacques Chirac et aussi Nicolas Sarkozy, qui eux sont allés beaucoup plus loin, d'une part dans une forme d'attachement à la Russie ou à l'idée qu'ils s'en faisaient, et d'autre part dans des calculs politiques peut-être plus cyniques, en tout cas qui ont poussé très loin l'arrimage de la France dans sa politique étrangère à la Russie, et encore une fois j'insiste, à la Russie telle qu'il se l'imaginait, et dans des représentations qui ont été largement entretenues, activement entretenues, par les autorités russes.
Alors peut-être qu'il faut distinguer, puisque si on prend la fin du mandat de François Mitterrand, très attaché à Gorbatchev, qui a vécu la fin de l'Union soviétique et qui révèle un atterrissage en douceur, et ensuite le premier mandat de Jacques Chirac, la crainte à l'époque, on a du mal à se rappeler, c'était la faiblesse de la Russie.
Absolument.
Qui nous inquiétait. On avait été habitué à la toute puissance de l'URSS, et puis ensuite il y avait un pouvoir faible et qui allait un peu à volo, donc d'où c'est quand même, on était un peu au chevet de la Russie dans la décennie 90.
Oui, d'une part on a été au chevet de la Russie dans la décennie 90 et on craignait essentiellement l'éclatement de la Russie sous l'effet de forces centrifuges, et on craignait également l'apparition d'un monstre qui aurait été le pays le plus nucléarisé au monde, des craintes qui parfois ressurgissent un peu aujourd'hui, même si les capacités de gestionnaires aujourd'hui des cadres russes sont bien supérieures à ce qu'étaient celles des cadres soviétiques ou post-soviétiques. Il est vrai néanmoins que nous avons beaucoup soutenu la Russie dans sa transition, ce qui est aussi un élément que je rappelle pour m'opposer à ceux qui disent que nous avons trahi la Russie, que nous aurions dû l'aider plus. Je vois mal personnellement comment nous aurions pu l'aider plus sans nous substituer aux autorités. Il y a certainement des choses que nous aurions pu faire pour arrimer plus activement la Russie à l'Europe, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que nous n'avons pas aidé, nous, très collectivement l'Occident, la Russie dans le moment de transition.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors ensuite, donc la fin du mandat de Chirac et son deuxième mandat, puis Sarkozy, mais est-ce que simplement c'était pas l'intérêt de la France on a été effectivement peut-être insensible à la nature répressive du régime russe, c'est pas le seul régime répressif avec lequel on avait des bonnes relations. Est-ce que d'un point de vue géopolitique, il n'y a pas un intérêt pour la France de dire qu'il y a quand même un grand pays qui est membre du permanent Conseil de sécurité, qui est sur le continent européen, on a quand même affaire avec lui, quoi, et qu'il y a toujours effectivement le contrepoids à l'influence américaine qui a toujours joué.
Oui, c'est certain que c'est véritablement le moteur et l'explication, la justification qui est toujours invoquée. Il n'y a personne en France jusqu'à très récemment qui se soit revendiqué du régime russe en raison de sa nature profonde et de sa nature peut-être récente, puisque je pense qu'il y a véritablement une mutation du régime. Généralement, c'était par recherche d'une alliance qui allait bénéficier à la France. Mais il me semble que nous sommes restés dans des représentation largement héritée de la période de Yalta, c'est-à-dire la période au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où l'ordre mondial est déterminé par des zones d'influence. Un concept qu'aujourd'hui, on commence à remettre en cause, parfois en invoquant les droits de l'homme, parfois en invoquant la règle démocratique aussi. Et dans ce cadre, la manière dont nous avons tissé nos relations avec la Russie, la priorité que nous avons donnée à cet État sur tous les autres États issus de l'URSS, vient contrecarrer finalement la lecture actuelle du monde et celle aussi peut-être de la hiérarchie des menaces. Il me semble qu'il est difficile aujourd'hui de soutenir que l'influence américaine représente aujourd'hui en Europe un risque supérieur à l'instabilité générée par le régime russe.
Ah, aujourd'hui, ça, c'est clair. C'est quand même la Russie qui a lancé la guerre. Mais c'était un peu le pari de Gaulle.
Tout à fait.
De dire l'influence américaine, elle est énorme en France. Mmh. En fait, la Russie a assez peu de chances d'avoir de l'influence. Et à l'époque, il y a quand même un parti communiste avec 25% des voix. Donc, c'était, et puis, une aura quand même intellectuelle, finalement. Qui était l'URSS, était peut-être plus populaire à l'époque. Finalement, mais est-ce que, par exemple, lorsque l'on s'oppose ensemble à la guerre d'Irak, il n'y a pas des points communs qui nous sont effectivement, et donc sur lesquels il était légitime de jouer à l'époque.
À l'époque, notamment, l'unité dont nous avons, ou l'alignement dont nous avons fait preuve avec la Russie, la France, la Chine, notamment, contre la guerre d'Irak, correspond, je pense, effectivement, à une lecture qui fait absolument honneur à la France. Mais ce qu'il est délicat en fait à saisir, c'est à quel point les représentations ont leur vie propre, les hommes qui sont au pouvoir sont porteurs d'une culture, et je pense que cette culture qu'on a évoquée, celle de l'ordre post-Yalta et aussi de l'époque où les États-Unis avaient eu pour la France une ambition de contrôle bien plus affirmée qu'aujourd'hui, et des moyens de contrôle bien plus affirmés qu'aujourd'hui, eh bien tout ce corpus-là est en décalage, il me semble, avec le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et le rôle que le régime russe entend assigner à la Russie. Et c'est ce corpus qui m'a semblé, en tout cas, être indiqué et utile comme moyen d'agir au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui aujourd'hui nous encombre et nous empêche peut-être de voir à la fois les menaces et les opportunités causées par la Russie pour la France, pour ce qu'elles sont.
Alors, on entend beaucoup, et je ne dis pas que c'est ton propos, mais on entend beaucoup en ce moment des gens ayant pignon sur rue qui disent « mais finalement, depuis le départ, c'était comme ça, dès que Poutine arrive au pouvoir, il avait un plan à la fois de soumission de l'Ukraine et d'agression de l'Occident ». Est-ce que, moi j'essaie de faire, de dire quand même « on a quand même commis des erreurs à l'égard de la Russie, aucune d'elles ne justifie, n'excuse la guerre, et encore moins les crimes de guerre, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas eu des moments manqué. Est-ce qu'on n'a pas manqué des étapes à l'égard de la Russie? Je pense notamment à l'intervention en Libye, le mandat de Medvedev et d'autres occasions, le débat sur la guerre du Kosovo, etc. Est-ce que finalement, cette guerre aurait pu être évitée?
Ça, c'est une vraie et large et profonde question sur les erreurs que nous aurions pu faire. Moi, je fais partie de ceux qui ont pensé à la fin de la guerre froide que l'OTAN, à l'image du pacte de Varsovie, aurait dû disparaître et que cela nous aurait permis d'élaborer sans doute une politique sécuritaire à l'échelle de l'Europe et que pour moi, cela aurait été la meilleure option possible et la plus stable, c'est-à-dire une maison européenne avec la Russie. Cela ne s'est pas passé, n'a pas été possible. Sur les désaccords que nous avons avec les élites, les dirigeants actuels russes à l'occasion de dossiers internationaux comme la Libye, notamment le Kosovo qui est régulièrement invoqué, certainement ils nous ont éloignés, ils ont créé des dissensions, mais je ne pense pas que les dirigeants russes, encore une fois, aient été pour autant poussés à agir comme ils l'ont fait récemment. Je pense qu'il y a véritablement eu un tournant dans les sphères dirigeantes, et j'entends au niveau fédéral de la Russie, dans leur vision du monde et dans l'héritage qu'ils entendent laisser à leurs concitoyens. Je pense que ça fait à peu près 15 ans qu'on voit ce développement. Jusque-là, aucune des erreurs que nous aurions pu commettre n'était, à mon avis, mortelle. Il restait de la place pour la négociation. Et c'est depuis lors, depuis à peu près 2007, que nous sommes entrés dans un moment particulier de la Russie. Et ce moment, je pense, il nous a été dissimulé de manière délibérée par les élites russes. Et nous n'aurions pas pu faire grand-chose véritablement pour l'empêcher.
Pourquoi 2007 ? Le discours de Poutine à Munich ?
Oui, absolument. Le discours de Poutine à Munich et l'accumulation...
Qui est jugé modéré par les Américains à l'époque, par Robert Guetz, qui dit « oui ». Bon, il dit des choses, mais c'est pas grave, non, pourtant.
Ouais. Je pense qu'en fait, on est quand même dans une très longue histoire de méconnaissance et de mécompréhension de part et d'autre qui continue aujourd'hui. Nous comprenons très mal les motifs et les grilles de lecture du monde, des dirigeants russes, et eux comprennent très mal les nôtres. Et je pense que nous avons émis de très mauvais messages à plusieurs reprises, notamment en 2008 lors du sommet de l'OTAN, et encore récemment au sommet de Vilnius de l'OTAN de l'année dernière, et que les Russes aussi communiquent d'une manière qui est très peu compatible avec la nôtre. Nous avons en fait un potentiel d'incompréhension très important, y compris dans les négociations. Un exemple concret pour moi, quand nous disons en 2008 au sommet de l'OTAN que nous n'allons pas faire entrer d'emblée l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, mais donner des roadmaps, c'est perçu de notre côté comme une position équilibrée. Et du côté russe, je reste persuadée que c'est perçu comme l'idée qu'il y a une fenêtre de temps très courte à mettre à profit, à agir avec le plus de violence possible pour s'assurer que le pays soit déstabilisé de manière à ce qu'il ne puisse pas entrer dans l'OTAN puisqu'il y aurait un conflit territorial sur son sol. Et c'est fort de ces deux cultures politiques assez incompatibles et qui n'ont pas trouvé les moyens de faire langue commune que nous avons creusé de part et d'autre des trajectoires qui ne peuvent plus mélanger.
L'abstention de la Russie sur la résolution 1973 qui permet un son libé est postérieure. D'ailleurs, Medvedev va y laisser sa place.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, tu penses que c'était déjà trop tard, que il y a quand même que l'intervention en Libye a joué aussi un rôle, outre dans le Sahel, mais sur l'éloignement. Les Russes sont dit, finalement, Moscou s'est dit en 90, on vote contre l'Irak et après ils nous laissent tomber. Et là, on s'abstient, on met pas le veto et ensuite on change le mandat en cours de mission.
Oui, il y a probablement eu un sentiment côté russe d'incompréhension de nos choix personnels, enfin des choix de l'Occident. Je pense aussi qu'il y a eu en Russie de grands moments d'indifférenciation, c'est-à-dire que rien n'était écrit. Même la présidence Medvedev aurait pu déboucher sur un moment beaucoup plus libéral, une évolution beaucoup plus libérale de la Russie. Il y a eu d'autres facteurs qui sont venus perturber ou orienter l'évolution russe, notamment le cours des hydrocarbures, qui a permis quand même, je pense, d'aspirer à une politique de puissance qui n'était probablement pas là avant. La Russie n'avait tout simplement pas les moyens de son impérialisme, et il y a maintenant, je pense aussi, une crainte d'une contagion non pas américaine ou otanienne, même si elle fait peur, mais du modèle démocratique, parce que ce que la Russie récente n'a pas investi, c'est le soft power, c'est sa capacité d'attraction. Au contraire, elle a misé sur une capacité d'effroi et un contrôle direct. En ce sens, je pense qu'on nous sommes face à la confrontation d'un monde moderne, avec une vision moderne du pouvoir, et un monde postmoderne, beaucoup plus basé sur, encore une fois, l'attractivité, les flux, les mélanges, alors qu'en Russie, à l'heure actuelle en tout cas, les élites ont opté pour un mode de gouvernance qui est beaucoup plus vertical, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus hiérarchique, et où le pouvoir se manifeste par la capacité de violence, et cela, pour le moment, se révèle complètement antagoniste avec notre approche.
Alors, nous en sommes là, effectivement, la guerre, les crimes de guerre, Irpin, Boutcha, etc., tout ceci est très documenté de façon assez large et diversifiée. Donc, on voit mal maintenant comment reprendre le cours des relations entre non seulement la France et Moscou, mais le monde occidental et la Russie.
Oui, alors je comprends effectivement qu'on se sente peut-être dans une impasse où il n'y a guère de choix que celui de la confrontation et peut-être de la confrontation armée. Je pense pour ma part que les élites russes, notamment, dans leur pratique du pouvoir, sont tout à fait habituées, dans la mesure où l'idéologie n'est qu'un vecteur et un moyen d'une politique, à reformuler leurs objectifs de manière extrêmement fluide, d'une souplesse dont nous n'avons généralement pas idée. Et c'est une idée que j'avais évoqué, je pense, avec Jean Glignasti en plateau, il serait tout à fait possible d'envisager que les élites russes, à un moment d'une escalade, en tout cas verbale et peut-être sécuritaire, autour de la question nucléaire, puissent d'elles-mêmes, en marge de négociations où nous leur aurions donné peut-être des signaux positifs, se positionner comme les seuls raisonnables, le seul acteur raisonnable dans la pièce, capable d'éviter à l'humanité une apocalypse nucléaire, et devenant force de proposition pour une négociation. Ça, c'est quelque chose que j'imagine tout à fait les élites.
Oui, mais nous la refuserions.
Tout dépend du niveau d'escalade et de risque dans lequel nous serions déjà entrés à ce moment. Je pense qu'il y a aussi d'autres voies qui peuvent être explorées. Une des voies qui est explorable, c'est l'énorme tension actuelle qui s'exerce sur l'appareil politique et social en Russie, qui est en proie à une mutation accélérée du fait des gouvernants et non pas de l'État. Il y a donc un fossé croissant entre l'État, les technocrates, si on veut, et les dirigeants politiques. Il y a fort à croire qu'il y a dans ces technocrates nombre de politiques qui accepteraient de se défaire de Vladimir Poutine. Encore faut-il pouvoir leur parler et leur faire des offres de propositions.
Ce qui est un peu difficile puisque tous les contacts sont coupés. Tu penses que Poutine pourrait être son pouvoir à situation militaire égale ? Est-ce que son pouvoir, s'il y a effondrement de l'armée russe, ça sera autre chose, mais à situation militaire peu ou prou constante, Poutine semble, c'est quand même avec lui, sauf accident de santé, qu'on aura à traiter ou à ne pas traiter dans les années qui viennent. C'est quand même lui qui, que ça nous plaise ou plaise pas, sera au pouvoir à Moscou et on n'est pas prêt de le mettre devant la Cour pénale internationale.
Non. Là, les deux options que j'évoquais ne sont travaillables que dans le cadre d'une tension accrue, c'est-à-dire d'une dégradation de nos relations avec la Russie.
Au bord du précipice, alors.
Au bord du précipice, au moins verbalement. Je pense qu'il y a quand même un distinguo à faire et qu'on semble parfois avoir perdu entre les prises de position publiques et les discussions privées qui peuvent avoir lieu dans l'enceinte diplomatique et qui peuvent poursuivre, je pense, des voies assez différentes.
Oui, parce qu'il y a quand même des contacts.
Il doit y en avoir, il faut qu'il y en ait. C'est d'ailleurs ce qui nous préserve de dérapage. Donc il est important que dans le militaire comme dans le diplomatique, les contacts continuent. Je pense notamment que dans la pratique des négociations, les élites russes ont tendance à ce qui peut passer pour nous à une forme de surenchère qui brûle un peu les ponts, alors que ce sont souvent des appels à négocier, à revenir autour de la table. Un des exemples de mécompréhension, parce que nous ne pratiquons pas le même langage de négociation, notamment. Et il y a pour cela, je pense, la nécessité de monter en tension au moins diplomatique avec les élites russes.
Alors là, pour l'instant, on avait espéré un effondrement de l'armée russe en novembre 2022. Il n'est pas venu. On avait espéré côté occidental un succès de la contre-offensive ukrainienne qui n'est pas venu. Quel est l'horizon aujourd'hui d'un point de vue militaire? Les buts de guerre de Zelensky, reconquérir le Donbass, la Crimée, je ne parle même pas de juger Poutine, est-ce qu'ils te paraissent réalisables?
Alors, à l'heure actuelle, aucun d'entre eux n'est réalisable, faute de livraison par l'Occident et les alliés de l'Ukraine, des armements promis, qui sont la condition sine qua non pour pouvoir faire avancer les buts politiques de la guerre, les buts ukrainiens de la sortie de guerre, c'est-à-dire une victoire ukrainienne. Si nous ne livrons pas ce à quoi nous nous sommes engagés, alors de facto, nous contraindrons les Ukrainiens à négocier en position de faiblesse. En revanche, si les Ukrainiens appuyés par les Occidentaux sont en capacité d'infliger au moins une défaite militaire prégnante, significative, sans parler même d'aller à Moscou, ce qui n'est pas le projet pour le moment discuté par les alliés, ni même globalement dans la société ukrainienne, même s'il peut y avoir une envie de revanche. Alors, dans ce cas-là, je pense que le régime russe sera profondément ébranlé et que Vladimir Poutine, en tant qu'individu et acteur politique isolé, devrait pouvoir être remplacé au profit d'un autre arbitre, issu probablement des mêmes élites, mais beaucoup plus acceptable.
Sans le passif,
sans le passif de la violence.
Même s'il vient du même moule, il sera absolument acceptable. Mais ceci étant, du fait du déficit démographique ukrainien par rapport à la Russie, est-ce que cette victoire que tu évoques est possible uniquement avec l'envoi de matériel ou est-ce que, et certains le préconisent de plus en plus fortement d'ailleurs, il faudra passer par l'envoi de troupes. Ceux qui le préconisaient étaient très minoritaires, ils sont maintenant
un peu plus nombreux.
Ouais. Et ceux qui s'y opposent, comme moi, passent pour des munichois très facilement. Donc, est-ce qu'il faut passer, du fait du déficit démographique, par l'envoi de troupes pour faire la victoire?
Je pense que dans un premier temps, il faut passer par une mobilisation revue côté ukrainien. avec
et on voit encore, que c'est difficile. Il y a encore la masse humaine.
Il y a encore de la masse humaine. On dit en général que c'est entre 5 et 7% de la population qui peut être considérée comme mobilisable. Donc là, on est, si je ne me trompe pas, à 2,5%, ce qui est déjà un énorme effort pour la société ukrainienne. Mais il y a d'abord, de la part des Ukrainiens, cet effort à consentir à nouveau. Et après, encore une fois, si nous livrons des F-16, si nous livrons des missiles qui permettent de frapper dans la profondeur, dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine, et si nous laissons les frappes logistiques se faire, nous serons en meilleure situation pour comprendre si cela est suffisant pour frapper la Russie. Je pense qu'il y a frapper la Russie en termes politiques, frapper, diminuer la capacité de l'État russe à résister à notre alliance avec l'Ukraine. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est effectivement, peut-on faire en sorte de limiter la résistance économique de la Russie également? Et là, on est quand même face à la difficulté pour nous, à contrecarrer les contournements des sanctions quand nous nous trouvons
sanctions
face
purement occidentales aussi, c'est leur limite.
Purement occidentales, et notamment contournées très allègrement par l'Inde, qui est aussi un de nos partenaires stratégiques, par la Chine, avec qui nous devons à nouveau lier dialogue sur cette question. Ce sont ces deux facteurs-là. Mais jusque-là, il me semble que les Occidentaux n'ont pas été fidèles à leurs promesses. J'espère que cela ne passera pas par l'envoi de personnel militaire sur le terrain. Si cela devait être le cas, il faudra bien sûr prévoir un cadre pour un débat démocratique beaucoup plus approfondi. Ça ne peut pas être juste une décision...
Tu penses que l'envoi de F-16, de Taurus, suffirait à renverser la situation?
Je pense, oui. Je pense qu'il est susceptible que cet envoi, s'il a lieu rapidement, avant que la situation militaire ne continue de se dégrader et n'atteigne un point qui ne soit plus compensable.
Puisque maintenant, il y a une crainte même d'un effondrement ukrainien, en
absolument,
réalité.
Absolument, oui, parce que nous avons énormément tardé, nous avons quasiment un an de retard sur nos engagements. Si cela se produisait dans une fenêtre de temps qui est de plus en plus restreinte, et si l'aide américaine financière était aussi débloquée, on serait susceptible de voir se rétablir un équilibre et peut-être une capacité à progresser sur le terrain militaire. Mais, pour répondre plus simplement, je pense que le terrain militaire dicte tout. Et qu'il est très difficile aujourd'hui de faire des prévisions, même si nous devons produire différents scénarios pour savoir lequel a notre préférence et quelles sont ses implications.
Et au bout du compte, est-ce que tu penses que ce qui se passe en Ukraine justifie l'entrée en guerre de la France par une opposition militaire frontale avec la Russie et avec les risques que l'on fait? Pendant toute la guerre froide, on a évité d'avoir une confrontation directe entre occidentaux et soviétiques.
Bien
donc, est-ce qu'on le ferait maintenant?
Je pense qu'il y a deux risques. Il y a bien sûr le risque d'un engagement militaire accru de la part des Occidentaux et de la France avec une présence militaire sur place en Ukraine. Je ne pense pas que nous soyons jamais amenés à déclarer la guerre à la Russie.
On peut être pris dans l'engrenage de la guerre.
On pourrait être pris dans l'engrenage de la guerre. Mais je vois un risque parallèle à ne pas nous impliquer plus activement, encore une fois, en livrant les matériels auxquels nous nous sommes engagés, et peut-être en ayant plus de conseillers sur place. Ce risque que je vois, c'est que aux frontières de l'Europe et de la Russie, donc dans des États qui sont européens et qui se sentent de plus en plus déstabilisés et menacés par la Russie, que ce soit les Scandinaves, les Baltes, les Polonais, les Roumains, le risque à l'occasion soit d'une provocation orchestrée, soit d'un accident, de tensions accrues qui pourraient dégénérer en conflit. Et moi, ce que je crains, c'est une balkanisation qui nous amène à voir ce conflit se multiplier tout au long de la zone frontalière avec la Russie et prendre justement des formes de moins en moins contrôlables, peut-être pas avec la France parce que nous avons cette culture de la guerre froide et d'une forme de tempérance, mais avec d'autres États qui sont en première ligne, beaucoup plus inquiets, et quand on est inquiet, on est plus enclin à frapper, parce que c'est souvent comme ça qu'on justifie sa violence, et à moins, nous, d'apporter le soutien rapidement à l'Ukraine sur le terrain militaire, de manière à pouvoir défaire la Russie sur certaines batailles, j'ai peur, au contraire, de voir cette prolifération se faire sans la France. Et peut-être que la France sera amenée à intervenir en soutien à d'autres alliés membres de l'OTAN, mais c'est surtout ça qui m'inquiète, et non pas un engrenage qui nous amènerait à déclarer la guerre à la Russie contre notre gré.
Alors, tu parles d'un emballement, etc., mais du côté ukrainien, est-ce qu'il est normal qu'on s'engage autant aux côtés de l'Ukraine sans dire vouloir exercer une influence sur leur but de guerre.
Ah non, je pense que de toute façon, même si dans l'espace public, nos dirigeants font très attention à respecter la souveraineté ukrainienne, d'autant que celle-ci est actuellement violée par la Russie, il est légitime, dans le cas où nous nous engageons et où nous...
nous sommes engagés déjà.
Nous utilisons et nous mettons à disposition de l'Ukraine des moyens financiers conséquents, des moyens militaires conséquents et un capital politique et diplomatique conséquent, que nous ayons bien sûr notre mot à dire en ce qui concernera, en tout cas, les limites de notre engagement en rapport avec les buts de guerre.
Merci Elsa, je renvoie à la lecture de ton livre La fascination russe, une étude très fouillée, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie, c'est chez Robert Laffont.
Merci Pascal.